Ce matin, on continue notre série dans Éphésiens. Et vous allez voir, on est vraiment dans un passage qui est de circonstances aussi avec les baptêmes, avec les témoignages qu'on va entendre tout à l'heure. Et dans Éphésiens, Paul, l'apôtre Paul, qui a écrit cette lettre-là aux chrétiens de la ville d'Éphèse, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous fait découvrir une facette de la personne de Dieu qui était méconnue jusqu'alors. Et clairement, Paul se concentre sur un mystère qu'il vient nous révéler de la personne de Dieu et de l'amour de Dieu. Fait que j'ai une question pour vous avant qu'on aille lire le passage ensemble ce matin. Qu'est-ce qui se passerait si dans ton cœur, personnellement, tu avais une conviction profonde que tu es aimé parfaitement? Qu'est-ce qui se passerait dans ton cœur si à chaque instant, ce que tu expérimentais en toi, c'est la conviction que tu es une personne qui est aimée complètement, parfaitement, sans condition, sans de possibilité que tu gâches cet amour-là, mais que cet amour-là t'était assuré? Qu'est-ce que ça pourrait produire en toi comme changement? Parce que lorsque Paul a écrit cette lettre-là, il est en prison. Il est en prison à ce moment-là dans des conditions de vie misérables. Mais lorsqu'on lit sa lettre, on ne lit pas une lettre écrite par quelqu'un qui vit la misère. On lit une lettre qui est écrite par quelqu'un qui est heureux, qui est rempli, qui déborde. Il y a quelque chose de... Soit que le gars il était failé et ça ne marchait pas dans sa tête, ou soit qu'il vivait quelque chose que les gens ne vivent pas en général lorsqu'ils sont jetés en prison. Et Paul nous dit dans le passage de ce matin que l'expérience que lui avait alors qu'il était en prison, Dieu désire, et c'était la prière de Paul, que tous les chrétiens puissent le vivre. Et si tu n'es pas chrétien, que tu puisses le vivre toi aussi. C'est ça qu'on va voir ensemble ce matin dans ce passage. On va aller dans un mot de prière. Père éternel, merci pour ta parole, premièrement, qui nous aide à te connaître, Seigneur, comme on ne pourrait jamais te connaître sans la Bible, Seigneur, pas comme ça. Pas de manière aussi intime et personnelle, pas connaître ton cœur, tes pensées. Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as créé l'univers? Pourquoi tu nous as mis sur la terre? Pourquoi tu as organisé un univers aussi parfaitement orchestré? Puis pourquoi il y a de la souffrance dans le monde? Puis pourquoi nous, on est là? À quoi sert notre vie? Toutes ces choses-là, Seigneur, c'est ta parole qui nous les donne. Alors, Père, on veut te remercier ce matin pour ta parole qui nous fait connaître qui tu es. Mais je veux te remercier parce que tu es mon Père, parce que tu es notre Père et parce que tu as eu à cœur de nous faire entrer dans ta famille, de faire de nous des fils et des filles bien-aimés de Dieu, aimés inconditionnellement, à jamais, parfaitement, complètement. Seigneur Jésus, je veux te remercier ce matin parce que tu es venu sur la terre, tu t'es fait homme, tu es devenu un être humain comme nous, et tu nous as aimés au point de venir t'offrir un sacrifice à la croix. Et Paul nous dit dans ce passage, Seigneur, que tu as fait de nous des co-héritiers, tu as fait de nous tes frères et sœurs, co-héritiers avec toi, co-héritiers de la promesse avec Israël. Seigneur, merci pour ton amour inconditionnel pour nous. Et enfin, Esprit Saint de Dieu, je veux te demander ce matin de venir faire un miracle dans nos cœurs. Seigneur, je crois en toi, je crois que tu existes, je crois que tu es là. Je te vois agir dans ma vie, Seigneur, comme des centaines de personnes ici ce matin, régulièrement. Mais ce matin, on veut demander que tu viennes faire une œuvre pour appliquer ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Que cette parole ne reste pas simplement des concepts, des vérités que nous savons, mais nous désirons, Seigneur, que ce soit des vérités que nous expérimentons au plus profond de notre âme, Seigneur, afin que nous soyons constamment assurés de ton amour pour nous en Jésus-Christ. Et si quelques personnes parmi nous ce matin ne connaissent pas cet amour, Seigneur, que ce soit à travers les chants, la louange, les témoignages des gars tout à l'heure, à travers le message de la parole, à travers les discussions, viens leur faire connaître, Esprit Saint de Dieu, l'amour de Dieu à travers Jésus-Christ. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen. Vous pouvez tourner avec nous dans Éphésiens 3. On va écouter ensemble la parole de Dieu.
À Alors, le passage biblique de ce matin est tiré du livre Éphésiens au chapitre 3, versets 1 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Éphésiens, chapitre 3, versets 1 à 21, nouvelle édition de Genève. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordée par l'efficacité de sa puissance. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les lieux et sur la terre, tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.
Amen. Amen. La parole de Dieu. Ce matin, on va voir des choses extraordinaires dans ce passage-là. Des paroles qui peuvent vous bénir, qui peuvent vous faire du bien, qui peuvent vous éclairer, qui peuvent vous instruire. Certains d'entre vous, à travers ces paroles-là, vous allez être encouragés. Vous allez être encouragés de voir combien l'Évangile, la bonne nouvelle de ce que Jésus a accompli en venant mourir sur la croix pour nos péchés, ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Cette bonne nouvelle-là est pas simplement pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, qui ne connaissent pas Jésus, mais c'est pour nous chrétiens aussi. Certains d'entre vous allaient être encouragés. D'autres encore, vous allez être portés à penser à des proches, des amis que vous aimez, des gens dans votre famille, puis vous allez vous dire, j'aimerais tellement ça qu'ils puissent recevoir ça aussi dans leur cœur, qu'ils puissent croire comme j'ai cru, puis être bénis, comme on dit. N'est-ce pas? Être enrichi de ça. D'autres encore, vous allez regarder ce que Paul vit alors qu'il est en prison, puis son espèce d'exaltation, puis sa joie qui comme transcende les obstacles, les défis de la vie, les barreaux qu'il y a dans sa vie. Vous allez dire, c'est pas ça mon expérience de la vie chrétienne. Et je ne sais pas comment on fait pour vivre ça. Regardez bien ce que Paul dit à la toute fin du passage que Julie vient de nous lire. Éphésiens 3, verset 20-21. « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Dieu peut faire des choses plus grandes même que ce que vous imaginez ou demandez à Dieu. Dieu en a déjà fait plus grandes que ce qu'on aurait pu imaginer. Dieu a envoyé son Fils qui s'est incarné, qui est devenu Jésus de Nazareth. Il a vécu comme un homme. Il a envoyé avec une mission précise. Le Fils est venu pour mourir sur la croix. Qui eût cru que Dieu s'incarnerait et viendrait pour mourir sur la croix? Puis Dieu l'a ressuscité d'entre les morts le troisième jour. Qui aurait pu imaginer ça? Plus que ce qu'on peut imaginer ou demander. Et aujourd'hui, Christ est auprès du Père et il intercède en notre faveur. À ceux qui ne croient pas en ça, ils disent, écoute, ça prend beaucoup d'imagination pour imaginer un enfant d'homme. À ceux qui ont cru en ça, ils disent, jamais j'aurais pu croire, imaginer, penser que Dieu m'aimerait à ce point-là. Donc Dieu a déjà fait beaucoup plus que ce qu'on pourrait imaginer ou demander. Est-ce que c'est encore beaucoup de choses de la part de Dieu de venir nous faire grandir dans l'Évangile comme chrétiens, afin qu'on puisse vraiment être porté par cet amour-là constamment et expérimenter ce que Paul expérimente? Est-ce que dans le christianisme, il y a une élite spirituelle qui sont comme les plus bénis de Dieu, qui vivent eux autres vraiment l'Évangile, puis les autres, ben, ils sont sauvés par l'Évangile, puis peut-être qu'un jour, ils l'apprécieront quand ils adoreront pour l'éternité dans le ciel? C'est pas la prière de Paul à tout le moins. Et Paul a cette conviction-là pendant qu'il est en train de prier, que Dieu veut faire ça dans chacun de ses enfants. Parce que c'est tout l'argument d'Éphésiens 1, 2, 3, c'est que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont également bénis et aimés de Dieu. Alors ce matin, je t'invite à avoir la foi, à croire en Dieu. Si ce n'est pas ton expérience de la vie chrétienne, c'est celle que Dieu peut et veut produire en toi. Soyez pas cynique en disant « Ah, oh, Dieu peut ». Est-ce qu'il veut? Il veut, je te le dis, envoyer son Fils, pas pour que tu sois sauvé par la peau des fesses, mais pour que tu sois tout entièrement rempli en lui. C'est dans la volonté de Dieu de faire ces choses-là. Ce matin, on va voir ensemble que lorsque Jésus est venu, Dieu a dévoilé un mystère qui fascine les anges et qui transforme les prisonniers en hommes libres. Paul, le prisonnier libre. Au moment où Paul écrit cette lettre-là, peut-être que vous n'êtes pas conscient de ça, peut-être que vous ne connaissez pas bien le contexte, mais il est en prison à cause des non-juifs, d'accord? Puis pendant que j'étais en train d'écrire ça, puis j'étais en train de réfléchir, je réalisais à quel point c'est surprenant combien de grande littérature chrétienne a été écrite en prison. Si vous connaissez Le Pèlerin de John Bunyan, il avait écrit un autre livre extrêmement important avant sur la grâce. Il a écrit en prison, 13 ans passés en prison. Il a commencé son livre Le Pèlerin alors qu'il était en prison. Des lettres extraordinaires de Dietrich Bonhoeffer pendant la Deuxième Guerre mondiale. En prison, il a écrit ces lettres-là. On a plus de 200 documents. On a des témoignages presque à l'infini de chrétiens qui ont été un témoignage incroyable alors qu'ils étaient en prison. Fait qu'il y a deux explications possibles. Soit que les chrétiens, au cours de 2000 ans, ont passé beaucoup de temps en prison, ce qui est vrai, ou soit que lorsqu'ils sont envoyés en prison pour la foi, pour Jésus-Christ, ils vivent dans leur cellule quelque chose qui est différent de ce que les hommes autour d'eux. Et je pense qu'il y a un petit peu des deux dans ça. Donc, Paul est en prison. On lit dans Éphésiens 3, 1, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. » Encore une fois, juste pour vous mettre dans le contexte, Paul était un juif. C'était un juif pro-juif. C'était un juif docteur de la loi, un juif qui connaissait la loi. Puis c'était à cause de sa foi juive, je vais le dire comme ça, dans l'Ancien Testament et sa compréhension de l'Ancien Testament, c'était un persécuteur de chrétiens. Donc, Paul s'était donné comme mission d'éradiquer cette secte-là qu'on appelait le christianisme. Et c'était sa mission de vie qu'il s'était donnée. Il poursuivait les Juifs qui se convertissaient, qui croyaient en Jésus comme étant le Messie juif annoncé dans l'Ancien Testament. Il les pourchassait. Il allait de ville en ville avec des lettres qui l'autorisaient à aller arracher ces gens-là de leur maison, les faire jeter en prison, les faire torturer, les faire mettre à mort. Il se considérait lui-même comme un meurtrier. C'était son destin pour lui. Et puis un jour, bam, Dieu est entré dans sa vie, Christ, Jésus-Christ s'est manifesté, cet homme-là s'est converti et l'ironie de Dieu a voulu qu'il soit envoyé vers les nations pour annoncer l'Évangile. Et donc, il est devenu le héros de l'Évangile. pour les nations païennes, les non-juifs. Le pro-juif anti-chrétien est devenu le porte-parole de Jésus-Christ auprès des non-juifs. Et parce qu'il s'entêtait à ouvrir la porte à l'Évangile aux non-juifs, aux nations, il a été persécuté sévèrement par les Juifs pour finalement se retrouver en prison. Et donc, Paul allait de ville en ville et des messagers le suivaient de ville en ville, des gens, des Juifs qui envoyaient des messagers de ville en ville à partir de Jérusalem pour le poursuivre puis s'assurer qu'on lui faisait du trouble là où il allait. Donc, il y avait des gens qui le suivaient derrière quelques jours, quelques semaines plus tard pour dire « Écoutez-le pas, écoutez-le pas, écoutez-le pas, ce gars-là, il est dangereux. Il est dangereux. Il est en train de contredire Moïse puis l'Ancien Testament alors qu'il est en train d'annoncer l'accomplissement. » Et Paul se retrouve en prison. Donc, Paul est en prison littéralement à cause de vous, païens. Païens, ça veut dire les non-juifs. Le mot en grec qui est là, c'est les ethnos. Donc, les ethnies de la terre qui ne sont pas juives. Paul est en prison à cause qu'il annonçait l'Évangile aux païens. Et donc, Paul était un persécuteur de chrétiens. Il pourchassait les chrétiens. Il haïssait les chrétiens. Il les détestait. Petite application comme ça. Avez-vous déjà eu un conflit avec un chrétien? Tu sais, comme tu en veux à un chrétien, je sais pas. Peut-être que vous n'êtes pas chrétien, c'est pour ça que vous n'avez jamais eu de la colère contre un chrétien, mais si vous l'êtes, probablement que vous avez eu des conflits. Puis Paul avait un gros conflit avec les chrétiens. Vous comprenez? Il les mettait à mort. Il les haïssait. Et l'Évangile est venu le réconcilier avec les chrétiens. L'Évangile peut faire la même chose dans ta vie. Tu vas me dire, ouais, non, ça c'était avant sa conversion. Non, non, après tu vas voir, il va appliquer l'Évangile pour les chrétiens aussi. Ça s'en vient, Éphésiens 4. Juste la semaine prochaine, on va être là. L'Évangile qui a changé Paul, qui était un persécuteur de chrétiens, en individu qui aimait les chrétiens, peut faire de toi un chrétien qui se réconcilie avec les frères et sœurs. Amen. Le même Évangile. Peut-être que tu n'y crois pas. Peut-être que c'était juste bon pour Paul. C'est bon pour toi aussi. Tu as un conflit avec des frères et sœurs dans la foi, l'Évangile est suffisant pour faire de toi quelqu'un qui aime les chrétiens comme Paul, qui les aimait alors qu'il était même en prison pour annoncer l'Évangile aux païens. Éphésiens 3:8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens. » Donc, c'est pour ça que Paul considérait qu'il était le moindre de tous les saints, c'est qu'avant de devenir chrétien, il s'assurait que les chrétiens soient mis à mort. Fait qu'il ne trouvait pas qu'il était comme un chrétien très, très hot. Mais Paul dit qu'il est prisonnier de Christ. Il dit qu'il est prisonnier de Christ. À mon avis, à moi, il est prisonnier des Romains. C'est des Romains qui l'ont mis en tôle pour répondre aux accusations des Juifs. C'est des soldats romains qui sont en train de le garder là-bas. Pourtant, Paul dit qu'il est en prison, qu'il est prisonnier de Christ. Et Paul, dans le fond, est en train de dire que s'il est là, c'est quoi les explications? Il est là à cause de Christ? À cause de la cause de Jésus-Christ, c'est pour ça qu'il est en prison. Pas parce que lui aurait fait quelque chose de mal, mais parce qu'il a fait quelque chose de bien pour Christ, c'est pour ça qu'il est en prison. Paul savait que Christ était souverain. On a des situations où Dieu fait sortir des prisonniers de manière incroyablement miraculeuse, mais Dieu décide de le garder lui là. Et donc, Paul est en train de dire, il est souverain, mon Seigneur est souverain. Si je suis là, c'est parce qu'il veut que je sois là. Je suis prisonnier de Christ, peut-être que c'est ça qui est à l'esprit. Mais avant tout, parce que c'est un thème que Paul développe souvent à plusieurs reprises, avant tout, Paul avait en tête que son cœur appartenait à Jésus-Christ. Son cœur appartenait à Christ. Paul se décrit souvent comme un serviteur. Mais pas comme un serviteur, tu sais, le boss boy à qui tu vas donner un tip lorsque tu as terminé le service ou la serveuse qui vient, tu sais. Non, le mot serviteur qui est là, c'est un doulos. C'est douloureux même en français. Ça veut dire un esclave, d'accord? Et donc, le cœur de Paul, sa vie a été conquise par Jésus-Christ. Puis il dit, ma vie est entièrement à lui maintenant. Ma vie est complètement à lui. Et il y a quelque chose dans cette vision-là de son rapport à Jésus-Christ qui vient transformer son expérience d'être en prison. Paul dit un petit peu plus loin, c'est pour cette raison que je fléchis les genoux devant le Père. Puis là, pour nous, fléchir les genoux, ça veut dire comme se mettre en prière. Mais les Juifs ne priaient pas à genoux, d'accord? Les Juifs priaient debout. Si vous avez vu des images des Juifs aujourd'hui qui priaient à Jérusalem, ils priaient debout. Lorsqu'on a dans les Écritures des moments où des Juifs se mettent à genoux, c'est qu'ils tombent à genoux. Et donc, Paul tombait à genoux en priant pour les païens, pour notre salut. Mais j'ai trouvé ça ironique de lire ça lorsque j'étais en train d'étudier le passage, puis je me disais, tu fléchis les genoux devant le Père pendant que tu es en prison, moi, je pense que c'est les Romains qui t'ont fait plier les genoux. Mais pour Paul, s'il est en prison, ce n'est pas les Romains qui le tiennent là. C'est Dieu qui l'a envoyé là avec une mission. Il est en mission, c'est pour ça qu'il est là. Fait que j'ai une question pour toi si tu es chrétien. Est-ce que tu es prisonnier de Christ? Lorsqu'on a commencé la série, on a parlé des barreaux qu'on a dans nos vies. Les circonstances de Paul lorsqu'il écrit cette lettre-là sont très, très difficiles. Il est en prison. Ce n'est pas une prison de luxe, vous comprenez, avec la TV, puis des poids et haltères pour aller faire de l'entraînement. Puis, tu sais, non, puis je ne dis pas que les conditions dans les prisons, je voudrais y être, pas du tout, mais quand même, reportons-nous à l'époque, d'accord? Il y a des pays où ça ressemble à ça encore aujourd'hui. Donc, c'était des conditions vraiment misérables. Et donc, littéralement, il avait des chaînes aux pieds. Il passait probablement son temps enchaîné à des soldats romains. Et ça, c'était les circonstances de sa vie. Puis dans ces circonstances-là, il vit une abondance dans l'Évangile, dans son cœur, qui fait que j'ai une espèce de paradoxe, un prisonnier qui est libre. Je ne sais pas c'est quoi les barreaux qu'il y a devant tes yeux à toi. Je ne sais pas c'est quoi les circonstances de ta vie qui fait que par moment ou constamment tu te sens en prison. Des relations difficiles, un contexte de travail difficile, ta santé est une prison pour toi, peut-être. Excusez-moi de le dire comme ça, mais peut-être que ton mariage est une prison. Peut-être que ton célibat est une prison. Parce que tu voudrais avoir cette liberté-là de ne plus être en train de vivre ça. Je ne sais pas. Quels sont ces barreaux-là? Et si tu es à Christ, si tu es en Jésus-Christ, est-ce qu'avant d'être prisonnier de cette prison-là, tu es d'abord prisonnier de Christ? Et il y a vraiment quelque chose-là que Paul expérimentait, qu'il voulait que tous les chrétiens expérimentent. Paul est en prison, mais il est en mission en prison. Et donc, il y a la conviction que s'il est là, c'est pour pouvoir annoncer l'Évangile, c'est pour avoir d'autres opportunités d'annoncer l'Évangile. Moi, je plains les soldats romains qui étaient enchaînés à ce gars-là. Comprenez? Je veux dire, fallait que tu lui casses les dents, fallait que tu fasses de quoi si tu voulais qu'il se taise. Il était enchaîné après des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Je veux dire, tu payerais pour ça aujourd'hui. C'est ça la réalité. Fait qu'il dit, ah, OK, c'est vous mon champ de mission aujourd'hui. Clic, clic, les gars, on commence. Vous êtes prêts? On va commencer par un petit temps de louange. On va louer Dieu pour ses bontés. Après ça, je vais vous expliquer un petit peu l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Quand vous serez plus capable, vous m'enverrez d'autres gars. Changement de chiffre. On recommence. C'est comme ça qu'il voyait son temps en prison. Ces circonstances, les gens qui étaient là, qui auraient dû être ce qui le rendait misérable, était son champ de mission, c'était sa vision à lui, c'était son expérience. Parce que voyez-vous, Paul était comblé par l'amour de Christ. Il dit au verset 8, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Il est en prison. Il est en prison. Il dit, « Écoutez, je suis un persécuteur de chrétiens, je ne mérite même pas de vivre. Puis là, aujourd'hui, je peux annoncer l'Évangile. » Quand tu as l'opportunité d'annoncer l'Évangile comme chrétien, ce n'est pas une grâce. Tu ne l'expérimentes pas comme ça, comme une grâce. Tu sais, quand... « Ah, génial, la personne, elle voulait m'entendre un peu, puis on a parlé de l'Évangile, on a parlé de Jésus. » Paul voit ça comme une grâce. Il est comblé de savoir qu'il a ce privilège-là. À la fin, complètement, il est dans l'exaltation, verset 21. « À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles à venir. » Cet homme-là était comblé de l'amour de Christ pour lui. Et les circonstances de sa vie était transcendé par cette expérience-là de l'amour de Jésus-Christ. Je ne sais pas c'est quoi tes barreaux, je ne connais pas les circonstances de ta vie, je ne sais pas ce qui fait que tu te sens en prison. Il y en a plein d'exemples qui rendent notre vie misérable, qui peuvent nous priver de bonheur. Si tu es en Jésus-Christ, est-ce que tu es premièrement prisonnier de Christ? Et il y a quelque chose là qui va transcender les circonstances actuelles dans lesquelles tu vis, parce qu'il y aura d'autres circonstances difficiles qui vont suivre. On vit dans un monde où c'est difficile souvent de vivre. Maintenant, qu'est-ce qui a conduit Paul dans cette prison et qu'est-ce qui a conduit Paul dans cette joie-là? C'est un mystère. Il nous dit qu'il y avait quelque chose qui était caché depuis des siècles et qui a été révélé enfin. Dans Éphésiens 3, versets 2 à 5, voici ce qu'on lit. « La révélation du mystère de Christ. » Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, C'est par révélation, je reviens à ça dans un instant, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots, Éphésiens 2. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Paul, qui était un persécuteur des chrétiens, est devenu un apôtre de Jésus-Christ, un serviteur de Jésus-Christ. Paul, qui persécutait les chrétiens, a reçu par une révélation divine, par une intervention de Dieu. C'est pas en étudiant les Écritures que tout d'un coup, il a dit « OK, je suis en train de mettre un mauvais monde en prison, c'était pas la bonne affaire, j'ai pas compris l'Ancien Testament, mes pères étaient dans l'erreur depuis des siècles. » C'est par une intervention de Dieu. Puis la conversion de vie de ce gars-là est beaucoup trop dramatique pour que le gars ait vécu ça juste sur un bad trip de quelque chose. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui où cet homme-là a eu une révélation de Dieu. Au verset 3, il dit « C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. » Dans le fond, quand Jésus-Christ est venu, il est venu accomplir des choses qui étaient annoncées dans l'Ancien Testament, à travers les livres prophétiques, mais à travers tous les livres de l'Ancien Testament, d'une manière ou d'une autre, la venue de Christ et ce qu'il allait faire sur la croix était annoncé. Les Juifs étudiaient les textes depuis des années. Ils attendaient un Messie qui s'en venait, qui allait les libérer politiquement. Ils voyaient des fois l'idée d'un Messie souffrant qui apparaissait dans les textes. Ils ne comprenaient pas c'était quoi. Ils étudiaient les textes, ne comprenaient pas ça. Ils ne voyaient pas où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Jésus-Christ vient, il dit, c'est moi qui est là dans l'Ancien Testament. C'est moi l'accomplissement de l'Ancien Testament. C'est moi que vous attendiez. La majorité d'entre eux comprennent absolument rien. Le livre aux Romains ne réalise pas qu'en faisant ça, ils sont en train d'accomplir encore une fois les prophéties. Christ meurt sur la croix et dit, calmez-vous les boys, c'est comme ça que ça devait se passer. Ressuscite le troisième jour, comme ça avait été annoncé. Puis là, on commence à annoncer l'Évangile. Puis là, tranquillement, en quelques années, il y a des milliers et des milliers et des milliers de Juifs, premièrement, et de non-Juifs qui lisent l'Ancien Testament d'une manière complètement différente et qui réalisent que cet individu-là qui est venu, un gars hors norme, un gars spécial, c'est vrai, mais beaucoup plus que ça, était l'accomplissement de l'Ancien Testament. Et donc, ce que Paul nous dit, c'est qu'il a reçu une révélation de Dieu qui l'a aidé à comprendre vraiment qui est Jésus-Christ. Et puis Dieu lui a donné ensuite de ça le mandat, comme il l'a donné à quelques hommes à l'époque, aux apôtres, d'établir ce fondement-là, qui allait nous permettre de comprendre qui est Jésus, comment il est venu accomplir l'Ancien Testament. Ces gars-là se sont mis à rédiger le Nouveau Testament. Vous voulez comprendre la Bible? Ancien et Nouveau Testament. Ces gars-là se sont mis à rédiger le Nouveau Testament, puis à annoncer ça, à aider les gens à comprendre qui était ce Jésus-là, en quoi il était l'accomplissement de l'Ancien Testament. Mais tout ça s'est fait par une révélation de Dieu. Parce que Paul, par lui-même, il continuait à persécuter des chrétiens, puis à les mettre à mort, puis à les pourchasser. Et ce mystère-là, qui était en Jésus-Christ, Paul nous présente au verset 6 et 7. Ce mystère, c'est que les païens, c'est-à-dire les non-juifs, sont co-héritiers. Il faut lire le chapitre 2 avec les Juifs, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu. Au chapitre 2, on l'a vu la semaine dernière, l'apôtre Paul a développé l'idée qu'il y avait le peuple d'Israël qu'on pourrait décrire comme ceux qui étaient près de Dieu. Parce qu'il y avait l'Ancien Testament, connaissait le Décalogue, connaissait Dieu, avait reçu les prophètes. Il y avait beaucoup de choses sur Dieu. Et donc, ces gens-là, en principe, étaient près de Dieu. Puis, il y avait toutes les autres nations de la terre qui n'avaient jamais eu de prophètes qui venaient leur annoncer tout ça. Leur seule manière de comprendre, c'est d'aller étudier le peuple d'Israël puis les livres qu'eux autres étudiaient pour connaître Dieu. Puis, Paul nous dit dans Éphésiens 2 que ceux qui étaient près de Dieu et ceux qui étaient éloignés de Dieu, en réalité, ont été réconciliés avec Dieu sur la même base, sur la base de la grâce. Donc, ceux qui étaient près de Dieu avaient la loi de Dieu. Mais Paul va le développer encore plus dans Romains. Cette loi-là n'était pas suffisante pour être réconcilié avec Dieu. Cette loi-là était davantage un pédagogue. La semaine dernière, je vous ai lancé un défi. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé mon défi? Vous avez essayé de ne pas enfreindre les 10 commandements pendant 7 jours? Non? Si vous avez réussi, venez me voir, on va faire une vidéo sur vous. Ça va être le premier dans l'annale de l'histoire de l'humanité, dans les annales de l'histoire de l'humanité, qui est capable de respecter les 10 commandements sans en enfreindre aucun pendant 7 jours. Ça va être un phénomène. YouTube, vous allez avoir des vidéos sur vous, vous allez être suivi, ça va être extraordinaire. Ça me surprendrait qu'il y ait quelqu'un qui vienne me voir avec ça, parce que Paul nous dit, cette loi-là avait été donnée à Israël dans un but pédagogique, premièrement. Leur faire connaître Dieu, leur faire connaître qui ils sont. Qu'ils réalisent qu'ils ne peuvent pas se réconcilier avec Dieu par la loi. Et donc, ceux qui avaient aucune idée qui est Dieu, qui n'avaient jamais entendu parler de la Bible, qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus de Nazareth, qui n'avaient jamais entendu les prophètes, qui aucune idée. Pour eux, Dieu, c'était « passe-moi un crayon, une feuille, on voit Dieu, 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 Dieu. » Puis tu avais les autres qui, au contraire, avaient reçu tout l'Ancien Testament, puis pour eux, Dieu, c'était clair qui était Dieu. Et Paul dit, ces deux groupes-là ont été réconciliés avec Dieu et réconciliés entre eux par un seul moyen, la grâce. Ce que Jésus a fait en mourant sur la croix pour nos péchés, c'est la grâce de Dieu. Et donc, c'est sur cette base-là, seule et unique, que tous nous sommes réconciliés et qu'on forme un seul et même corps. Jamais dans l'Ancien Testament, les gens avaient compris ça. Jamais les gens pouvaient comprendre ça. Aujourd'hui, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Sur quelle base on va réconcilier des êtres humains? Ah, sur la base de l'amour, il faut tous s'aimer. Ouais, mais il m'a fait du mal. Ouais, mais sur quelle base on va les réconcilier? Ouais, mais il m'a fait beaucoup de mal. Sur la base de la grâce. Lorsque je découvre que Dieu m'a fait grâce, je suis en mesure de faire grâce. Et donc, des gens qui n'avaient rien en commun, même qui avaient toutes les raisons humaines de s'haïr, de se détester, parce qu'ils ne se connaissaient pas, ils venaient d'origines différentes, il y avait une incompréhension, il y avait des histoires de guerre entre ces peuples-là, peuvent être réconciliés à cause de la grâce de Jésus-Christ. Et Paul va plus loin que ça. Il dit que cet évangile-là est un sujet de fascination pour les anges, pour les dominations dans les cieux, On a parlé un peu des êtres célestes, cette espèce de dimension-là qu'on ne voit pas. Si je crois en Dieu, je crois qu'il y a plus que Dieu aussi. Puis il y a des êtres, les Écritures nous parlent d'anges, de démons, de diables. Et Paul nous dit que ces êtres-là qui voient Dieu, parce qu'ils sont dans les lieux célestes constamment, n'avaient pas compris ça du tout. Et Paul va plus loin que ça. Il nous dit que c'est à travers l'Église. Regardez les versets 8 à 10. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est comme si tous les jours, depuis 2000 ans, toutes les communautés chrétiennes qu'il y a sur la terre, les églises locales, sont un sujet de fascination, d'émerveillement, de surprise pour les êtres qui sont dans les lieux célestes puis qui regardent ces communautés-là de gens, ma foi, qui n'avaient pas grand-chose en commun, qui auraient toutes les raisons de ne pas nécessairement s'aimer beaucoup les uns les autres. De toutes sortes d'origines différentes, avec toutes sortes d'histoires qui ont des conflits entre chrétiens, puis qui se réconcilient, puis ils sont là, puis ils regardent ça, puis ils disent « Aïe, aïe! » J'avais jamais compris ça en étant face à face avec Dieu. Il a fallu qu'il réalise l'Église, l'assemblée de ceux qui sont en Jésus-Christ, pour qu'on puisse apprécier cette beauté-là. Pense à ça quand tu penses à l'Église locale. Pense à ça si tu es un chrétien qui ne sait pas attaché volontairement, joint à une assemblée locale, avec les côtés agréables et les côtés désagréables. Pense au privilège de pouvoir être un témoignage à la gloire de Dieu, à la puissance de l'Évangile. C'est ça l'Église locale. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi et moi, pour chacun d'entre nous? Toi et moi, prisonniers et libres. Je sais que c'est souvent difficile à comprendre lorsqu'on dit que l'Évangile doit être au centre de la vie chrétienne. L'idée d'être centré sur l'Évangile, c'est quelque chose qui résonne étrangement dans les oreilles des chrétiens parce qu'ils se disent « L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de ce que Jésus est venu mourir sur la croix pour mes péchés. Il est ressuscité d'entre les morts. On devient chrétien en croyant dans l'Évangile. » Après ça, on apprend à vivre comme chrétien. Tu ne vas jamais au-delà de l'Évangile. Tu ne vas jamais au-delà de ça. Paul dit « Les richesses incompréhensibles qu'il y a en Jésus-Christ. » Il n'y a jamais un « OK, puis après. » « Oui, j'ai compris, il est mort, sa croix, il est ressuscité d'entre les morts. OK, puis après. » Non, attends un petit peu, là. Parce que si tu t'en vas ailleurs, tu vas commencer à construire une religion. Tu vas avoir toutes sortes de pratiques. Tu vas dire, OK, un chrétien, ça fait quoi? Ça va à l'église le dimanche. OK, je vais à l'église le dimanche. Un chrétien, ça fait quoi? Ah, ça a à cœur la mission, on va donner pour la mission. OK, on va faire ça. Un chrétien, ça fait quoi? Ben, ça fait plus ça, ça fait plus ça, ça fait plus ça. OK, un chrétien, ça fait quoi? Ah, ça fait ça aussi, ça fait ça, ça fait ça aussi. Puis après un certain temps, tu vas dire, hey, c'était cool quand je me suis converti, mais en fin de compte, c'est lourd, cette affaire-là. Parce que tu penses qu'il y a un après Jésus-Christ pour un chrétien. Mais il y a en Jésus-Christ des richesses incompréhensibles. Et Paul arrive à la toute fin de ce chapitre-là en faisant une prière. Paul prie afin que les chrétiens d'Éphèse puissent saisir l'Évangile, qu'ils soient enracinés dans l'amour qu'il y a en Jésus-Christ comme ils ne l'ont jamais été auparavant. Paul prie pour qu'il y ait une illumination puissante de l'esprit que Dieu peut faire en eux. Il dit « Je prie pour que vous soyez puissamment éclairés afin que Christ habite dans vos cœurs. » Quand je me convertis, Christ habite dans mon cœur. Oui, mais attends un peu. De la même manière que Paul a connu Jésus-Christ par une révélation de l'esprit, maintenant il prie pour que nous, comme chrétiens, par la puissance de l'esprit, il y a quelque chose qui se passe en nous qui fait qu'on est complètement submergé par une compréhension, mais c'est beaucoup plus que juste intellectuel. Je peux prendre tous les bouquins de théologie, puis vous refiler ça, puis vous dire, venez-vous-en, vous étudiez ça cette année, vous mémorisez ça, on fait un examen à la fin de l'année. Ça se peut qu'à la fin de l'année, vous n'ayez pas avancé d'un pouce dans votre expérience de cet amour-là. En Jésus-Christ. Et c'est ça qui rend la chose des fois si difficile pour des chrétiens à comprendre. Ils disent, Yannick, l'Évangile, je comprends, ça fait longtemps. Je comprends que tu le comprends. Mais l'esprit qui est témoin de ce qui se passe dans ton cœur sait que tu ne le comprends pas. Tu l'as compris pour être sauvé. Mais tu n'es pas habité de cet amour-là au point où tu sais constamment que tu n'as pas à te prouver au monde, tu n'as pas à te prouver à Dieu. Ce n'est pas grave si les gens n'apprécient pas ce que tu es en train de faire, ta valeur se trouvera là, ça ne trouve pas là. Tu n'as pas besoin d'avoir d'autres dieux dans ta vie, des dieux pratiques comme ta carrière pour t'accomplir nécessairement. Non, tu es là pour servir à travers ça. L'esprit qui est en toi voit tous ces domaines où l'amour de Jésus-Christ ne t'habite pas entièrement. Et donc, sa prière, c'est qu'il y ait une œuvre puissante de l'Esprit afin que tu sois saisi par l'Évangile. Saisir l'Évangile comme jamais auparavant, c'est être captivé par l'amour de Dieu, avoir l'absolue certitude d'être aimé par Dieu en tout temps et à jamais. Et ça relève d'une œuvre puissante de l'Esprit en toi. Fait que même ce matin, pendant que je suis en train de prêcher ça, je suis pas en train de dire, OK, là, j'espère qu'enfin, ils vont comprendre. Tu sais, ils catchent pas, puis je suis là, puis je reviens toujours sur l'Évangile à travers. Tous les messages reviennent. Là, j'espère qu'enfin, ils vont comprendre. Non, vous savez quoi? Bien au-delà de tout ce que je peux dire ce matin, puis de tout ce que les Écritures peuvent dire, j'ai prié pour vous. Et on prie les uns pour les autres. Parce que c'est une œuvre de l'Esprit en nous. Je sais, si vous ne croyez pas en Dieu, c'est bon, OK, c'est vraiment flyé, cette bonhomme-là. L'esprit, les esprits. Je crois vraiment qu'on a une âme, puis qu'on est plus que juste de la matière. Et donc, c'est une œuvre de l'esprit. C'est quelque chose qu'on demande à Dieu. Et certains d'entre vous, vous ne le demandez pas à Dieu parce que vous dites, « Ben moi, je ne suis pas un SS. Moi, je ne suis pas un super spirituel. T'sais. Moi, je ne suis pas un comme Paul. Moi, je suis quelqu'un de terre à terre. Puis, tu sais, une claque sur le nez, ça fait mal. Tu ne peux pas juste dire, « Alléluia, j'ai une claque sur le nez. » Non, tu ne présentes pas l'autre joue. Soyons pratiques, s'il te plaît, Jésus. D'accord? C'est dans la capacité de Dieu de faire entrer l'Évangile dans nos cœurs, afin que Christ habite dans nos cœurs comme il n'a jamais habité dans nos cœurs. C'est dans sa capacité et c'est dans sa volonté. C'est pour ça que Paul a commencé sa lettre en disant « Béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. » Parce que tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont bénis de toutes ces grâces-là. Et à tout homme sur la terre, toute femme sur la terre qui aujourd'hui dit « Ok, je veux comprendre c'est quoi cette histoire-là de la grâce. C'est quoi qui fait que ces deux bozos-là décident de se faire baptiser aujourd'hui? Pourquoi ces deux gars-là décident de faire ça à leur âge? Puis ils se sont-ils fait enfirouaper dans une patente, une secte? C'est quoi la joke? C'est quoi cette affaire-là? » Je veux comprendre cette grâce-là. Cette grâce-là est disponible pour toi. Elle est là. Tu peux la recevoir, cette grâce-là. Carson dit, « Paul ne prie pas pour que ses lecteurs aient la capacité de mieux articuler la grandeur de l'amour de Jésus-Christ. » Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est important. Il n'y a pas un autre cours de théologie qui va faire que paf, il va avoir une puissance de l'esprit. On étudie l'Écriture pour comprendre davantage l'Évangile, mais il y a plus que simplement une compréhension intellectuelle. Paul ne prie pas pour que ses lecteurs aient la capacité de mieux articuler la grandeur de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Et encore une fois, je ne suis pas en train de dire que si tu pouvais l'articuler mieux, ça ne t'aiderait pas à le comprendre. Ce n'est pas ça que je dis, mais il y a une autre dimension à cela. Il y a une autre dimension à ça. Ou saisir avec l'intelligence seule l'importance de l'amour de Dieu dans le plan de la rédemption. Ils demandent à Dieu que leur soit donné le pouvoir de saisir les dimensions de cet amour dans leur expérience personnelle. Tony Meriba dit, « L'amour de Dieu s'est inscrit dans l'histoire d'une manière excellente à la croix, mais cet amour, pour être apprécié, doit être savouré. Il doit être expérimenté personnellement. » C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui sont dans l'Église pendant 10 ans, 15 ans, puis tu jases avec, puis des fois tu parles avec eux, tu parles d'Évangile, puis ils peuvent tout t'expliquer ça, on a une belle conversation, c'est intéressant, mais tu regardes leur vie à tous les jours, puis tu te dis, je sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose qui manque encore, puis à un moment donné, des fois après 10 ans, 15 ans, boum, la personne se fait convertir. On a une organisation missionnaire au Québec pour les jeunes du Québec, puis c'était fascinant à l'époque de voir qu'il y avait des gens qui allait faire du bec en mission pour annoncer l'Évangile, puis pendant l'été, paf, le gars, il était en train d'annoncer l'Évangile aux portes, puis à un moment donné, « J'avais jamais compris ça! » Je vous le dis, on avait des histoires comme ça, là, les gars s'arrêtaient, puis disaient, « Écoute, on va s'asseoir sur le bord du trottoir, faut que je prie, faut que je me convertisse, faut que j'accepte le Seigneur. » Parce que là, ça fait 3 semaines qu'on l'annonce, l'Évangile. « Ah, mais il y a quelque chose qui vient de se passer en moi, je ne sais pas, j'avais jamais compris ça comme ça. » Ils ont saisi l'Évangile à ce moment-là. Et donc, ce que Paul prie, c'est quelque chose qui dépasse simplement l'intelligence, mais c'est une œuvre puissante de l'Esprit qui fait que Christ habite puissamment en nous. Tony Merida dit encore, « Nous sommes appelés à construire nos vies sur l'amour de Christ. Nous devons laisser nos racines plonger dans l'amour de Christ pour en tirer toute notre force, en vivant dans l'instant présent, sachant que nous sommes aimés de Dieu. » Et donc, la prière de Paul, alors qu'il est en prison, c'est que les chrétiens d'Éphèse puissent être habités de l'Évangile, habités de l'amour de Jésus-Christ, comme ils l'ont jamais été, et qu'ils puissent vivre ce que lui est en train de vivre alors qu'il est en prison. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant, s'il vous plaît. L'Évangile, c'est quelque chose de simple. Complexe, mais simple. On est tous pécheurs. Il n'y a personne de parfait. On fait toutes des conneries qu'on aimerait mieux qu'ils soient effacées. Moi, quand j'entends les gens qui disent « Oh, je ne regrette rien. » Non, non, j'ai rien à effacer. J'ai encore entendu quelqu'un qui disait ça cette semaine. Là, je suis parti dans ma tête et je dis « Ah! T'es vraiment meilleur que moi parce que moi, j'ai des petits bouts que j'aimerais ça effacer encore aujourd'hui. » C'est correct, Jésus, t'es mort pour tout ça, mais si je pouvais comme juste les effacer, ce serait cool. T'sais. Et donc, l'Évangile, c'est quoi? On est tous pécheurs. À cause de ça, Dieu qui est saint ne peut pas nous accueillir dans sa présence juste en faisant comme si tralali la l'air, t'as jamais rien fait de mal, mon ami. Viens dans mes bras, mon grand, t'es quelqu'un de beau et merveilleux. Non, t'es pas juste beau et merveilleux. Il y a des petits bouts où t'es vraiment pas beau et merveilleux. C'est ça. Puis Christ vient sur la terre, meurt sur la croix pour nos péchés. Lui qui était sans tâche, meurt sur la croix pour nos péchés. Afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés. simplement par la foi, ressuscite d'entre les morts le troisième jour. Je sais que c'est flyé. Si tu n'as jamais lu la Bible, lis la Bible. Tu vas voir, il est flyé, mais c'est puissant. C'est puissant. Ressuscite d'entre les morts le troisième jour. Ça veut dire que Dieu a dit, j'accepte ce sacrifice-là. C'est bon. C'est bon pour les hommes, ce que tu as fait là, Jésus. Et donc, à tout homme, juif, non-juif, bon gars, mauvais gars, bonne fille, mauvaise fille, « Ah, moi, je suis mieux que l'autre. » Non, non. On est tous un peu morons devant Dieu, beaucoup. Mais que chacun d'entre nous, si on place notre foi en Jésus-Christ, on peut s'être pardonné de nos péchés. Et devenir un frère, une sœur de Jésus-Christ, être adopté dans la famille de Dieu, pouvoir commencer à aller dans la prière puis dire « Père ». C'est ça qu'il dit dans Éphésiens 3, il dit « Nous nous approchons en sachant que nous sommes accueillis par le Père. » On sait qu'on est accueillis par Dieu, pas parce qu'aujourd'hui j'ai fait tous mes devoirs puis j'ai eu une bonne note morale, parce que Christ l'a fait à ma place. J'ai été adopté, puis je peux venir en tout temps dans sa présence. Mais Paul va plus loin maintenant, puis il dit à toi qui es chrétien, toi qui dis « Moi, j'ai connu l'Évangile. Moi, je suis fils d'Abraham par la foi. J'ai connu l'Évangile de Jésus-Christ. » C'est quoi les circonstances de ta vie? C'est quoi la prison qu'il y a dans ta vie? Est-ce que dans ton cœur, par une puissance de l'esprit qui dépasse toute intelligence, l'amour de Dieu en toi est tellement fort que dans cette prison, t'es prisonnier et libre comme Paul? Tout en étant dans ces circonstances-là difficiles, t'es prisonnier et libre parce que tu sais en ton être intérieur profondément que Dieu t'a aimé, que Dieu t'a choisi, que Dieu t'a appelé à lui, que Christ est venu mourir sur la croix pour toi, que t'es co-héritier, que les promesses de Dieu sont là pour toi et tu vas dans la vie, quelles que soient les circonstances, habiter de ça. C'est ma prière pour vous ce matin. C'est ma prière pour moi lorsque je perds ça de vue. Voulez-vous, on va prier ensemble pour ça, puis on va louer le Seigneur ensuite par des chants. Seigneur, on vient dans la prière parce que souvent, Seigneur, les barreaux qui sont devant moi, c'est tout ce que je vois, Seigneur. Les circonstances difficiles de ma vie deviennent à mes yeux une prison qui rend ma joie en toi impossible, inaccessible, Seigneur. Et Seigneur, on n'est pas de ces gens qui essaient de nier la réalité de la souffrance humaine. Paul parle trop des conditions difficiles où il vit. Paul parle trop des souffrances qui lui sont imposées pour ne pas reconnaître ces choses-là, Seigneur. Mais Seigneur, nous croyons que tu es puissant pour envoyer ton Fils mourir sur la croix pour nos péchés, le ressusciter d'entre les morts le troisième jour. Nous croyons que ton Fils est monté auprès du Père afin que l'Esprit nous soit donné. Nous croyons que ton Esprit habite en nous, non seulement pour nous assurer qu'un jour la souffrance va s'arrêter puis on va aller au ciel, mais que déjà, dès à présent, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Déjà, dès à présent, nous sommes rempli de ton amour, assuré de ta grâce, de ta bienveillance jour après jour, et qu'il est possible de vivre cette joie que Paul vivait alors qu'il était en prison. Cette joie qui devient un témoignage puissant pour les gens autour de moi, Seigneur. Afin que ces gens qui sont peut-être même mes bourreaux qui m'enchaînent puissent entendre à travers mes lèvres les louanges de Dieu, la grandeur de l'Évangile. Sois exalté ce matin, Seigneur, par nos louanges. Sois béni par le témoignage des gars qui vont se faire baptiser, Seigneur. Viens glorifier ton nom au milieu de nous. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.